nous demain, Jean Pérassin. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet s'intitule l'architecture entre le modèle et le contexte. Je m'explique. Les écoles d'architecture de l'École des Beaux-Arts ont été créées au XIXe siècle. Elles ont fait, on peut dire, une sorte de modèle idéal pour les écoles d'architecture qui n'existaient pas auparavant dans le monde entier. Et cette influence a perduré dans de nombreux pays. Simplement, la France, comme bien souvent avec nos institutions, nous avons perdu cette avance et nous avons notre incapacité souvent de réformer. Nous avons vu le déclin de cette école qui pourtant avait eu non seulement du succès, mais en plus de ça avait pu évoluer dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que cet enseignement de l'École des Beaux-Arts était basé sur le modèle. Alors je m'explique, le modèle, ça veut dire que on étudiait des modèles par rapport à leur fonction. Il y avait bien sûr à l'École des Beaux-Arts des sujets qui étaient, on peut dire, assez aristocratiques, assez nobles. C'était une architecture de palais, de lieux, d'un idéal philosophique, etc. Mais il n'empêche qu'il s'agissait de réfléchir à la fonctionnalité, même si le mot n'était pas utilisé au XIXe siècle, où on parlait plutôt d'utilité, et le contexte, dans ce cas-là, était tout à fait mineur, et les projets étaient des projets qui n'étaient pas sur un site propre, mais c'était le sujet en lui-même. Donc, on avait par exemple un sujet qui pouvait être au bord de la mer ou dans un site urbain, mais d'une manière générale, le site n'était pas important, il s'agissait uniquement du bâtiment. Alors, au XIXe siècle, il y a eu aussi des rationalisations avec un architecte ingénieur qui s'appelait Durand, qui a édité des modèles fonctionnels avec tous les types. Alors là, on n'était plus uniquement que dans les palais philosophiques, mais on était dans le réel de l'utilité. Donc, c'était les gares, c'était des écoles, c'était les prisons, c'était enfin tous les lieux de la vie qui était modélisé d'une manière fonctionnelle, comme cela sera repris aussi par exemple par le Bauhaus avec l'architecte Neufert qui va essayer de modéliser un idéal par rapport au sujet. Alors c'est surprenant parce que nous sommes passés, on peut dire, après 68, qui a été une grande rupture dans ces écoles d'architecture en France, on est passé du modèle au contexte. C'est-à-dire que le contexte qui n'existait pas, et peut-être d'une manière un peu caricaturale, on faisait une croix dessus, mais on est passé de cette négation du contexte à un contexte qui est devenu une religion. Donc aujourd'hui, dans les écoles d'architecture, avant toute chose, on étudie le site, le terrain, et il y a une mode dans les écoles d'architecture en France, mais c'est un phénomène un peu général, à prendre des sites complexes. On va prendre ce que l'on appelle une dent creuse, ça veut dire un vide dans une ville. On va prendre aussi des sites escarpés, complexes, et l'habileté de l'étudiant sera de résoudre les problèmes du site. Donc, vous allez comprendre que tout ça n'est pas un hasard. Nous sommes passés d'une fonctionnalité, d'une rationalité à un domaine qui est beaucoup plus, on peut dire, je ne sais pas si c'est romantique ou poétique, mais en tout cas qui est lié à la nature, qui est lié au territoire. Et je pense que on est passé dans quelque chose qui est assez excessif, parce que aujourd'hui, cette religion du contexte fait que on ne rationalise plus, on n'étudie plus la fonction, et les bâtiments sont uniquement jugés en fonction de leur contexte. Alors, vous me direz que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais il y a un problème, c'est que la fonctionnalité, on peut établir des règles de rationalité par rapport à cela, mais dans le cas du contexte, le terme est suffisamment vague pour ne pas permettre des jugements, puisqu'en fait, chacun peut l'interpréter comme il veut. On peut faire, par exemple, une tour en disant « ma tour est contextuelle par rapport au site qui est plat », puisqu'en fait, ça va marquer un point d'orgue, un signal, je ne sais pas. Il y aura toujours de la littérature pour accompagner un discours qui n'a pas de base rationnelle. Donc, on va trouver tout un argumentaire, et aujourd'hui le projet d'architecture s'accompagne d'une littérature de justification qui prend le pas justement sur la raison, l'analyse fonctionnelle, et une chose qui est aussi importante, c'est la lisibilité du projet dans l'espace. Alors je vais m'arrêter sur ce point qui est important. Le rôle justement des bâtiments dans le système du modèle, c'est d'être identifiable. Et un espace urbain, mais aussi, on peut dire, de manière générale, un territoire, va être marqué par des bâtiments qui vont être intelligibles dans leur destination. Par exemple, dans les campagnes, une ferme est une ferme. On pouvait lire les étables, on pouvait lire la maison du maître. On avait ensuite, l'architecture symbolique, ne parlons pas de la religion, des églises qui marquaient tout le territoire, mais on avait aussi les mairies, un palais de justice, une prison, qui, à travers souvent des artifices, mais créaient un paysage intelligible et donnaient un sens à la promenade urbaine et au déroulement de la ville. Et c'était, on pouvait avoir une cohérence et aussi une sorte de mémento de vivre la ville par rapport à cette intelligibilité que l'on avait des bâtiments. Alors aujourd'hui, le problème du contexte, c'est que la fonctionnalité et la destination du bâtiment importent peu, et aujourd'hui on a du mal à distinguer, je ne sais pas, par exemple, un commissariat d'une crèche-garderie, ce qui est un peu embêtant dans l'espace urbain, de ne pas avoir, si ce n'est avec de la signalétique, et souvent c'est artificiel et pas du tout compréhensible. Après, également, les bâtiments, par exemple, je parlais de, en tant que commissariat, une crèche-garderie, il y a des notions de fonction, puisqu'il s'agit de bâtiments avec des destinations qui sont totalement opposées et différentes, et le bâtiment ne traduit pas aussi ses usages. Et ça, c'est un peu gênant, puisque, en fait, le jugement, surtout à travers les concours qui se fait sur les bâtiments, est basé de ce fait sur des notions qui ne sont pas rationnelles, qui ne sont pas opposables, puisqu'en fait, comme je vous disais à l'instant, on peut plaquer sur l'architecture d'aujourd'hui des discours romantiques ou pas romantiques, mais en tout cas qui peuvent être totalement des fictions et qui n'ont rien à voir avec le sujet qui est posé. Alors, Vous voyez que ce dilemme entre modèle et contexte est très important, puisque il s'agit, au-delà de la profession d'architecte et du côté anecdotique des bâtiments, d'une problématique beaucoup plus générale qui va poser la question à la fois non seulement du rapport au territoire qui aujourd'hui est un élément essentiel, notamment par la présence de la religion écologique, je mets religion entre guillemets, mais en tout cas de aussi du côté positif qu'il peut y avoir aux préoccupations environnementales. Et aujourd'hui, ça prend non pas dans une position d'équilibre entre les deux, mais ça prend une importance qui me paraît démesurée et au détriment de ce qui fait, alors ce que j'étais en train de dire, la lisibilité de la ville, mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire la ville civique, la ville qui peut être partage commun, donc on plaque les mots comme le vivre ensemble, mais le vivre ensemble, je crois qu'il est aussi, il se construit aussi sur le symbolique et la lisibilité de l'espace collectif et de l'espace commun. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, qui me tient à cœur, et il faut chercher aussi les causes de ces dérives là où elles sont, et comme vous voyez, l'architecture a son rôle à jouer. To caught you when you saw I never meant to caught you when it pain
Purple rain, purple.
Oui, vous avez reconnu Purple Rain par Prince, ce qui est une musique de circonstance compte tenu de la météo. Donc nous revenons à notre sujet sur le modèle et le contexte. Ce que j'étais en train de vous dire, c'était cette relation civique de l'architecture et de son intelligibilité. Et ça nous amène à parler justement de la position aujourd'hui de l'architecte qui est dans une demande d'expression individuelle, et cette demande d'expression individuelle est contradictoire avec justement cette expression sociale collective intelligible. Si l'architecte exprime sa problématique de lui seul, on a du mal à comprendre que ça puisse être compris par tout le monde et devenir le langage collectif. Donc on a un problème essentiel, et aujourd'hui l'architecture, qui est justement l'art de la continuité, on lui demande d'être comme les modes éphémères, vestimentaires, et ou alors les produits technologiques qui sont dans un cycle rapide d'obsolescence, on lui demande la nouveauté. Et je pense que justement l'architecture ne doit pas être la nouveauté, mais elle doit être au contraire la continuité. Alors toute la problématique qui est posée ainsi, c'est effectivement ce problème de l'individualisation et aussi les solutions qui ont été qui s'opposent à cela. Alors on a effectivement le vocabulaire classique qui a été, on peut dire, ce vocabulaire pendant des siècles, gréco-romain, qui a été celui de la Renaissance, celui du grand âge classique, et on peut dire quasiment jusqu'au début du XXe siècle. Donc on avait un langage fait d'un assemblage d'éléments fixes, et cet assemblage pouvait donner justement la signification et l'intelligibilité comme un vocabulaire, comme un sujet, un verbe, un complément. On pouvait faire des formes intelligibles par tous. Alors, bon, cela n'existe plus aujourd'hui. Et on a eu aussi des tentatives de faire, par exemple, de faire du régionalisme. Alors, le régionalisme, il a commencé, on peut dire, au début du XXe siècle. C'était une époque un peu trouble. C'était avant la guerre de 14, donc c'était basé sur un sursaut nationaliste, identitaire, qui n'était pas très clair. Notamment, il s'opposait à l'architecture classique, qui était considérée comme internationaliste. Et là, il y avait des relents d'antisémitisme à cette époque de l'affaire Dreyfus, où on opposait la race française justement à l'international, et l'international, en l'occurrence, c'était le juif. Bon, c'était donc quelque chose qui n'était pas très clair, et il faut dire aussi que ça a été repris par Pétain, où ça devenait aussi, le régionalisme était une sorte de religion nationale, où il fallait créer une architecture de l'identité nationale et régionale. Alors, les expériences n'étaient pas toujours très heureuses, parce qu'en fait, ce que l'on a vu, ce sont des modèles. Par exemple, on va prendre l'architecture basque, où on a pris la bergerie basque comme un style, attendu que c'était justement une fonction, c'est-à-dire c'était un modèle, et on en a fait une règle, et on a fait des maisons pour d'habitation avec des architectures où on transformait les pans de bois en béton, et donc c'était souvent des choses assez ridicules. On peut dire qu'on a vu ça aussi avec l'architecture néo-provençale, qui était aussi pareil, des architectures vernaculaires qui sont transposées dans le logement avec des erreurs d'échelle, et souvent on a affaire à des choses assez ridicules et grotesques. Alors, toutes ces erreurs et ces errances du XXe siècle ne veut pas dire que on va unifier les styles d'aujourd'hui. Alors, justement le paradoxe de l'époque où je vous disais que c'était l'expression de l'architecte de nouveauté. On pourrait dire que allez, vont fleurir des grands lieux de créativité. En fait, ce que l'on voit surtout, c'est une même monotonie. Et si l'on se déplace à travers le monde, on a à peu près les mêmes bâtiments que l'on retrouve à travers l'architecture, qui à travers les revues d'architecture et à travers tous les médias. Et on a une sorte de perte de repères, et ce qui est paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, on aura parlé du contexte comme quelque chose de super important, donc le contexte, c'est le territoire, la végétation, c'est le climat, c'est l'histoire aussi, le contexte, et en fait, on parle du contexte pour faire des architectures qui sont des clones les unes des autres, et surtout, encore plus grave, qui ne respectent pas cette identité, parce qu'on pourrait avoir, par exemple, on a des églises baroques à Prague, et on les a aussi à Naples, et on les retrouve à Mexico, dans des territoires ou à Salamanque. C'est la chrétienté, et effectivement, avec des variations qui peuvent être des variations locales, mais là, il s'agit d'autre chose. Nous avons des bâtiments qui n'ont plus donc d'intelligibilité sur leur destination, et de plus, avec des styles que l'on retrouve partout. Alors, effectivement, ça pose la question du pourquoi voyager, puisqu'on va avoir les mêmes choses partout. C'est effectivement une question que l'on peut se poser. Ce qui est plus grave, par contre, c'est de voir l'unification que l'on peut, que l'on voit sur les aménagements urbains. Je m'explique. On a par exemple les aménagements urbains. Paris a des aménagements urbains du 19e siècle particulièrement remarquables, qui ont été détruits peu à peu. Il y avait les entrées de métro, de Guimard, les bancs, les fontaines Wallace, etc. Et actuellement, la mairie actuelle, notamment, a pourchasse ses souvenirs du 19e siècle comme étant probablement ringards et les remplaçant par une unification. Alors, on a ça aussi, par exemple, dans notre géographie locale, un village magnifique qui est Saint-Félix de Lauragais a eu un traitement brutal d'aménagement urbain, où on a remplacé le côté maladroit de certaines ruelles où il y avait des pavés avec des rigoles et tout un vernaculaire qui en faisait tout le charme, par un traitement de dalles de béton et de bancs modernes qui sont du vocabulaire de supermarché et qui, me semble-t-il, sont totalement aberrants dans des lieux et surtout qui arrivent à enlever tout le charme local et tout le charme ancien de ces lieux. Là aussi, dans les revues d'architecture, si on enlève les lieux, on va trouver des aménagements urbains qui sont énormes, qui sont à la mode, et de mobilier urbain qui sont des unificateurs et qui font perdre tout le sel des contextes locaux, même si on a certaines choses qui sont un peu kitsch, pas de très bon goût, mais qui sont dans les caractéristiques locales. Donc là, il y a un problème d'unification, et qui justement est souvent est fait au nom du contexte, et c'est paradoxal. Et en fin de compte, il s'agit d'unification et non plus de relation avec l'histoire et la réalité et les diversités géographiques. Alors, cette question d'une architecture régionale, si on veut échapper au folklore et aux caricatures dont je parlais à l'instant, néanmoins, il y a dans les régions et dans les contextes géographiques et climatiques des possibilités de relations qui ne sont aujourd'hui pas pas mises en avant, ou du moins qui ne sont pas recherchées. Déjà, la première des raisons, c'est que c'est l'internalisation qui est faite des architectes. Je pense que un architecte peut construire dans des pays différents et dans des régions différentes. On n'est plus dans une histoire locale et chauviniste. Néanmoins, on peut tout de même s'interroger sur le fait que, par exemple, dans nos villes, on va trouver les bâtiments publics qui sont faits par des architectes d'autres pays ou parisiens quand on parle des régions. Et justement, cette réflexion sur l'architecture régionale n'est pas faite. Et elle pourrait être faite d'ailleurs avec un débat qui serait largement ouvert. Mais en fait, le débat n'est pas ouvert sur ce sujet. Ce qu'on cherche, c'est avoir des noms, le name dropping aujourd'hui, et de dire nous avons un grand nom pour nous faire tel bâtiment. Et je ne nommerai personne pour ne pas faire de peine à mes confrères. Vous voyez la problématique. Mais qui est importante, c'est celle de cette relation entre le territoire, les intervenants sur ce territoire, et aussi cette question du modèle qui peut rendre la ville intelligible. Et nous avons des exemples dans l'architecture ancienne qui pourraient servir de feuille de route. Prenons par exemple les Jacobins. Alors les Jacobins, qui est un bâtiment exceptionnel, et je pense que les Toulousains ignorent la notoriété mondiale de ce bâtiment, qui est tout à fait exceptionnel à plusieurs titres. Il est à la fois, je vous avais parlé de l'architecture romane et de l'architecture gothique en tant que modèle de civilisation et modèle culturel, et les Jacobins réussissent à faire le mariage entre justement la brique et les épaisseurs et la solidité de l'architecture méditerranéenne, de l'architecture du sud et des architectures nordique, qui amène des techniques différentes, qui permettent au bâtiment de faire entrer la lumière et également de monter plus haut. On a une sorte d'équilibre où on prend le meilleur des deux styles. Par exemple, les Jacobins, on a parlé de Notre-Dame récemment, et Notre-Dame est, comme tous les bâtiments gothique, une architecture d'une grande fragilité, ne serait-ce que par les arcs-boutants qui sont des éléments de structure extérieure. Et les Jacobins, on n'a pas d'arcs-boutants, on a des renforcements de briques qui fait que ce bâtiment qui a subi des avanies dans toute son histoire a pu être restauré très facilement parce qu'il est d'une solidité comme les bâtiments de l'ancienne Rome qui perdurent jusqu'à nos jours. Donc on a un exemple extraordinaire d'une architecture à la fois contemporaine de son époque qui prend les qualités de continuité des architectures méditerranéennes et cette qualité-là qui n'est pas celle des architectures d'aujourd'hui et des architectures gothiques. Et ça pourrait être un exemple. Alors il ne s'agit pas de refaire les Jacobins, mais comme leçon historique et de s'inspirer de ce lieu qui réussit à avoir une sorte de synthèse admirable entre les différentes cultures, entre les progrès techniques et aussi entre l'ancrage local et l'utilisation de matériaux qui est la brique dans son apparence, c'est-à-dire que le bâtiment s'inscrit dans la continuité d'une ville comme Toulouse, et je crois que c'est quelque chose qui est assez admirable. Donc vous voyez, je vais terminer sur une note optimiste d'une lecture de notre passé et en espérant que ce bâtiment qui reste encore pour beaucoup à découvrir ou redécouvrir serve de symbolique sur les temps présents et les temps à venir. Où vivrons-nous demain? Merci à Hugo qui officie la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Même jour, même heure. Pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?